Effectivement, Marc Rabaud et Frédéric Moisy sont professeurs de mécanique des fluides à l'université de Paris-Saclay et étudient actuellement la formation des vagues par le vent. Ce sont deux physiciens reconnus qui ont participé à la publication d'un livre, L'impermanence du monde, qu'ils ont coécrit avec Étienne Guyon et Jean-Pierre Hulin. Leur spécialité est donc la mécanique des fluides. Mais qu'est-ce que c'est que la mécanique des fluides ? Encore un domaine scientifique dont on a entendu le nom sans trop le comprendre. On est donc revenu avec Marc Rabaud sur cette notion.
La mécanique des fluides, donc ça intéresse à décrire les écoulements. Alors les fluides, ça veut dire les liquides et les gaz, parce qu'ils ont des comportements communs, et à décrire la façon qu'un liquide à s'écouler sur une pente, plus ou moins calmement, ou à faire des vagues, ou à déferler, ou un tuyau va plus ou moins laisser passer un liquide dans une tuyauterie, ou quand on ouvre un robinet, l'écoulement du filet d'eau. Tous ces problèmes-là, quotidiens, mais aussi du côté industriel, sont dépendent de ce domaine qui est la mécanique des fluides.
C'est donc cette mécanique des fluides et le mouvement qu'elle engendre qui forme notre monde, le rendant impermanent. L'impermanence du monde, c'est le titre de leur ouvrage. On en a donc parlé avec Frédéric Moisy de cette impermanence.
Et ce qu'on a eu envie de décrire dans ce livre, c'est comment les fluides sculptent notre monde pour en faire un monde qui n'est pas statique, mais qui est en permanente évolution. Et ça a été un petit peu le fil directeur de la rédaction de ce livre. On peut penser par exemple à l'écoulement d'une rivière. Alors à la fois ça coule et à la fois la rivière elle est toujours là où elle est. Mais en fait si on la regarde sur des échelles de temps long, on se rend compte qu'elle-même, ses méandres vont bouger dans le temps à l'échelle de l'année, de la dizaine, de la centaine d'années. Et puis également l'idée de cette impermanence c'était de regarder les choses à des échelles de temps différentes. Si vous regardez un nuage, par exemple, il a l'air à peu près immobile. Évidemment, si vous le regardez 10 minutes plus tard, il aura un petit peu bougé. Et si vous le regardez de façon accélérée, si vous faites un time-lapse de ce nuage, c'est-à-dire si vous multipliez par 100 la vitesse de défilement du film, eh ben vous verrez quelque chose de complètement nouveau, auquel vous ne vous attendiez pas. Vous verriez des bourgeonnements, un peu comme du lait qui déborde sur une casserole. Et en fait, c'est cette même mécanique des fluides qui décrit le lait qui déborde sur la casserole et le nuage en mouvement. Et c'est souvent des échelles, des changements de temps qui nous permettent d'en prendre conscience. Et donc voilà, on explore un petit peu la mécanique des fluides qui nous entoure avec à l'esprit ce changement des échelles de temps, de la seconde, le mois, l'année. On peut aller jusqu'aux millions d'années, à la centaine de millions d'années si on regarde par exemple la dérive des continents. C'est un problème de mécanique des fluides, la dérive des continents.
Bien que la mécanique des fluides rende notre monde impermanent, la physique est, elle, souvent régie par des lois qui, elles, sont permanentes. Et plus précisément, pour ce qui est des formes de notre monde, ce sont des équations que l'on retrouve.
Oh, ça saute en régie, pas de panique, on va retrouver. Alors, c'était Frédéric Moisy et donc Marc Rabaud là, qu'on entendait pour parler de la mécanique des fluides, donc tout un concept. Alors, j'espère que vous avez bien suivi. On retrouve là tranquillement en régie l'extrait attendu. On me fait signe qu'il a été retrouvé. Allez, on les écoute.
On a en mécanique des fluides une équation qu'on appelle l'équation de Navier-Stokes, donc de M. Navier et M. Stokes qui ont établi... On réfléchit aux premiers ingrédients et qui va, en fait, comme des équations de mécanique, contrôler la dynamique, c'est-à-dire comment les choses évoluent au cours du temps. Donc le temps est déjà dans cette équation. Et la particularité, c'est qu'un fluide, si on prend un volume de fluide, quand il s'écoule, il va changer de forme. Et c'est ça aussi qu'il faut suivre dans ces équations pour décrire les mouvements.
Dans le titre de la conférence du 14 février dernier qu'ils ont donné au Champ Libre, « L'air et l'eau sculptent notre monde », l'apparition du mot « sculpter » donne presque une intention artistique aux équations de mécanique des fluides. On est donc revenu, avec Frédéric Moisy, sur l'importance de l'émerveillement face aux phénomènes physiques.
On a un petit peu eu envie de se laisser émerveiller et que le lecteur avec nous s'émerveille en regardant des choses qui nous entourent et qu'on voit de tout temps. Des rivières, des nuages, des montagnes, des gouttes d'eau qui se détachent, qui tombent dans une mare, ça fait des ronds. Et ça, c'est très familier, ça tout le monde le connaît. Et on a envie d'emmener le lecteur dans une promenade pour réexaminer ces phénomènes avec le point de vue du scientifique, mais pas pour assécher le propos, pas pour le mettre en équation, mais justement pour essayer de souligner un petit peu la poésie qu'il pouvait y avoir là-dedans. En fait, On est scientifique, on travaille dans des laboratoires, on fait des expériences, on fait des graphiques, des mesures, etc. Mais je crois que toujours, on se laisse un petit peu guider par cet émerveillement, par une certaine esthétique. Ça peut être une esthétique de l'expérience bien faite, qui va donner lieu à un joli phénomène qu'on aura envie de comprendre. Alors quelque chose qui peut sembler plus abstrait, mais ça peut être également l'esthétique d'une belle équation. Alors je sais que quand on dit l'esthétique d'une belle équation, en général, ça fait sourire. Une belle équation, elle est esthétique si elle a des symétries, si elle a des propriétés mathématiques qui relèvent d'une certaine esthétique. Et le scientifique sait se laisser un petit peu porter par cette esthétique-là. Et voilà, on essaye d'apporter au grand public un petit peu ce goût, de partager ce goût pour cette esthétique un petit peu particulière de la belle équation.
Faire de la science différemment, passer par l'application et l'explication de choses simples, c'est l'un des objectifs des deux physiciens, qui ne veulent pas pour autant délaisser la théorie dans leur vulgarisation au grand public.
Bon, il y a beaucoup de façons de faire de la science. Il y a la science appliquée, la science qu'on pratique. Alors, il ne faut jamais tourner le dos aux applications. Je pense que c'est une assez mauvaise idée. Mais il ne faut pas non plus se laisser aveugler par l'application qu'on vise. Par exemple, si on construit un avion, on va chercher à optimiser la forme de son aile. C'est aussi un problème de mécanique des fluides. Je crois que c'est important de se laisser guider par la curiosité. Et cette curiosité peut nous faire prendre des chemins de traverse, nous faire des expériences qu'on n'avait pas prévues, mais qui donnent des belles images, plus belles que celles qu'on avait imaginées au début. Et donc, on suit ce chemin qui n'était pas prévu. Et des fois, il y a des belles découvertes, des découvertes parfois appliquées. L'histoire des sciences est semée de ces découvertes fortuites. Et le scientifique, quand il est arrivé quand il a trouvé quelque chose de nouveau, c'était pas avec l'envie de l'application, c'était juste pour le plaisir et la curiosité du joli phénomène. Et donc l'esthétique a toujours un rôle moteur, je crois.
L'importance de l'esthétique, montrer les expériences au grand public, c'est cela qui a rythmé leurs conférences au champ libre. Marc Rabaud nous a décrit une expérience que l'on peut retrouver dans leur livre, que chacun peut reproduire chez soi, et de la différence entre ce type d'expérience et celle effectuée en laboratoire.
Alors on fonctionne un peu par analogie et donc on va justement montrer une expérience de méandre, d'évolution des méandres sur des échelles de quelques secondes en changeant un peu les ingrédients. Donc on n'aura pas le lit d'une rivière qui est en train d'être érodé, mais on aura une plaque de plexiglas et un filet d'eau qui va couler en zigzagant sur cette plaque de plexiglas. Et certains mécanismes dans le détail sont différents, mais il y a un mécanisme général qu'on va pouvoir du coup comparer avec la réalité. Et du coup, on peut changer comme ça d'échelle de temps et ramener à une échelle de temps et d'espace qui soit manipulable et utilisable dans une présentation. À la base, quand on fait une expérience au laboratoire, on a besoin de faire... Alors, les belles images sont une motivation, mais on a aussi besoin de faire des mesures, donc d'avoir par exemple un éclairage extrêmement homogène. Donc on va utiliser une nappe laser ou différentes techniques comme ça. Donc la complexité, elle va venir parfois de ce besoin de mesurer, mais le principe physique, on va pouvoir le tester souvent dans une expérience simple. Alors c'est particulier avec la mécanique des fluides, où on a tout de suite une visualisation de ce qui se passe, quand on voit, en tout cas avec un liquide et éventuellement certains gaz, on peut voir les choses et faire des images. Bon, ce n'est pas tout vrai pour d'autres domaines de la physique. Hein. Au fond d'un cryostat, c'est plus compliqué. Mais donc cette image va tout de suite nous permettre de voir avec un prototype, que le principe de l'expérience fonctionne. Et après, on rend les choses plus sophistiquées pour faire de la mesure. Mais le principe, il est déjà dans l'expérience simple. Et donc, ce qu'on présentera là, c'est les expériences simples initiales sans mesure, juste pour le plaisir des yeux.
Pour terminer notre entretien, Marc Rabaud et Frédéric Moisy sont revenus sur la démarche pratique et l'émerveillement face au phénomène physique. Émerveillement qui les a emmenés jusqu'à Paris-Saclay et la mécanique des fluides.
Alors, je pense que c'est un attrait important de pouvoir voir les choses, pour moi, qui m'a guidé dans ce domaine-là. J'avais commencé par d'autres domaines de la physique, la physique du solide, que je parlais tout à l'heure au fond du cryostat. Ben là, on a sur un écran des mesures, mais il faut imaginer ce qui se passe. Et je trouve que la mécanique du fluide, l'avantage, c'est qu'on voit un phénomène et on se dit, mais quand même, ça, il faut arriver à l'expliquer. Pourquoi, quand je jette un caillou dans l'eau, les vagues, elles ont les ondes ont cette forme-là? Pourquoi il se passe telle chose? Maintenant, il faut que je l'explique.
Il faut voir qu'on fait de la recherche en laboratoire, mais on est également enseignant. Et donc, on enseigne à des étudiants. Et on était, avant d'être enseignant, on était étudiant. Et donc, il y a une sorte de passation qui se fait là. Et je crois que quand on choisit ses études, quand on choisit son sujet de thèse, si on fait une thèse, on a en tête un prof qui, à un moment, nous a émerveillés, qui a fait un truc bizarre, spécial, une expérience impressionnante. Et puis ensuite, quand à notre tour, on devient prof, et ben on a envie de voir la même chose dans les yeux des étudiants, de les émerveiller. Et quand on cherche à faire les petites expériences, comme ce soir on va faire, ou comme on fait en amphithéâtre, et ben je crois qu'on est à la recherche de ce regard qui brille quand on fait tomber une goutte d'eau dans un saladier pour regarder les ronds dans l'eau et qu'on les regarde ensuite au ralenti. On essaye de transmettre cet émerveillement qu'on a eu quand on était étudiant.
Merci Marc Rabaud et Frédéric Moisy pour cet entretien. On vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes leurs expériences dans leur ouvrage « L'impermanence du monde ».
Et merci Garande. Je le rappelle aussi que les conférences en démardi de l'Espace des sciences sont à retrouver en intégralité sur le site espace-science avec un s.org.